nous sommes petit à petit en train de terminer cette épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 5 et dans ce chapitre, à la fin de ce chapitre, l'apôtre Paul nous exhorte à, en tout cas c'est ce point que j'ai voulu souligner, nous exhorte à avoir une conduite sage et faire preuve de sagesse dans cette vie. Et pour cela, il fallait, il dit, racheter le temps, comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Et pour avoir cette conduite sage, il faut être rempli du Saint-Esprit, ce qui veut dire qu'il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Et ce qui caractérise une personne remplie du Saint-Esprit, c'est qu'elle s'entretient par les psaumes, par les hymnes, elle chante, les célèbre de tout son cœur les louanges du Seigneur. C'est une personne qui rend grâce à Dieu pour toutes choses et qui se soumet aux autres dans la crainte du Seigneur. Donc c'est ce qu'il dit dans ces passages d'Éphésiens 5, dans les versets 18 à 21. L'apôtre explique dans ce livre d'Éphésiens le plan que Dieu a mis à exécution, qu'il avait défini de toute éternité, avant même la fondation du monde. Et il nous dit que Jésus est celui qui donc a réalisé le plan de Dieu en venant sur cette terre, en donnant sa vie pour les hommes, et qu'il rassemble hommes, femmes, venant de tout milieu, pour former un peuple qu'est l'Église, le corps de Christ. Et il nous dit que Jésus est le chef suprême de l'Église. Et dans ce passage que nous allons lire, l'apôtre Paul va nous montrer comment nous pouvons vivre cette réalité qu'est l'Église en étant corps de Christ, Église qui se soumet à son chef, l'Église, et comment nous pouvons vivre cette réalité au quotidien, lorsque nous sommes mariés, entre mari et femme, ou bien relation entre enfants et parents, comment nous pouvons vivre aussi concrètement cette réalité lorsque nous sommes aussi serviteurs, lorsque nous travaillons, comment nous pouvons montrer que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, et montrer que nous pouvons vivre ensemble dans l'ordre, dans l'ordre et la bienséance, comme il est dit, dans la paix, si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, et montrer que lorsqu'on est chrétien, ce que le Seigneur attend, c'est que nous nous soumettions à lui, et que cette soumission à Jésus-Christ se traduit par une soumission dans ce qu'il a lui-même établi, notamment dans la relation de couple. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, à partir du verset 22, mais nous allons relire Éphésiens chapitre 5, verset 18, et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà. Alors, c'est le genre de passage, quand on commence à lire, on est, en tout cas, quand il faut prêcher ce genre de texte, on est un peu tout tremblant. Et pas seulement pour ce texte, quasiment pour tout message, on est, parce que c'est la parole de Dieu qu'on veut dispenser. Et je dis qu'on est un peu tout tremblant parce que c'est le genre de message où on veut bien faire attention que y a des mots que les gens n'aiment pas. Et on voudrait bien faire attention que utiliser les termes pour que les personnes soient prêtes à accepter ces choses. Mais l'apôtre Paul, il dit que je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, et c'est là aussi mon désir, et ne pas faire d'impasse sur les choses que nous n'aimons pas forcément entendre. Le texte nous dit clairement que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on se soumet les uns aux autres. Et l'apôtre Paul va donc expliquer que dans quelles conditions, il va donner plusieurs exemples où la soumission est nécessaire dans les relations de couple entre mari et femme, dans les relations enfants et parents, mais aussi dans les relations entre employés et employeurs. La soumission, donc c'est ce qu'il dit au verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La soumission, donc se soumettre, c'est cesser de résister, par définition, c'est ce qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est se conformer à, c'est obéir, se soumettre, comme on peut le voir dans ce verbe, c'est se placer sous, se mettre sous. Donc c'est un acte volontaire qui témoigne d'une disposition à obéir. Et nous savons que dans notre société, et dans quelle que soit la société, nous sommes tous amenés à nous soumettre à nos responsables, à nos supérieurs hiérarchiques, et quelle que soit notre opinion. Lorsque vous êtes embauché dans une entreprise, on ne vous fait pas une présentation du directeur et puis on vous demande est-ce que vous allez l'aimer ou pas. On vous dit c'est votre directeur et vous vous soumettez à ce qu'il vous demande de faire. Et donc nous nous soumettons à nos responsables parce qu'ils occupent une fonction et étant investis d'une certaine autorité. Et donc pour se soumettre à ses responsables, nous devons faire preuve donc d'humilité et accepter l'autorité dont était investie cette personne. La parole de Dieu nous dit clairement dans plusieurs passages, pas seulement l'apôtre Paul qui en parle, mais l'apôtre Pierre aussi, nous demande de nous soumettre en tant que chrétiens aux autorités établies par les hommes. Dans Romains chapitre 13, ce texte il est clair, il parle des magistrats. Toutes les autorités civiles qui sont là, que Dieu a institué, nous devons nous soumettre à ses autorités. L'apôtre Paul dit dans ce passage que c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il dit ces personnes, c'est Dieu qui les a instituées, qui les a placées là. Et donc nous devons les y soumettre, et il faut le faire parce que si nous voulons une société où règne l'ordre, et qu'il n'y ait pas d'anarchie, il faut qu'il y ait cette soumission à nos autorités. L'autre chose, c'est que dans l'Église, le Seigneur a établi des responsables et il nous demande le texte nous dit de nous soumettre aussi à nos conducteurs spirituels. Dans 1 Corinthiens 16, l'apôtre Paul dit d'avoir, en citant la famille Stéphanas, qui est dévoué au service des saints, il dit « Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. » Donc le mot « déférence » est le même terme qui est utilisé pour « soumission ». Donc dans l'Église aussi, il faut qu'il y ait cette soumission, nous soumettre les uns aux autres, et chacun doit se soumettre aux autorités établies, et donc aux responsables spirituels dans l'Église. Et l'autre chose qu'il est dit, c'est que donc la soumission doit s'exercer aussi dans le foyer, dans la relation entre épouse et l'épouse et son mari, entre les enfants et vis-à-vis des parents, mais aussi dans, et c'est ça qu'il est dit au chapitre 6 que nous allons voir prochainement, mais aussi dans les relations entre employés et patrons, toujours au chapitre 6. Donc le chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu se soumet aux autres. C'est ce qui caractérise un chrétien rempli de l'Esprit. C'est il se soumet aux autres parce qu'il a la crainte de Christ, selon ce texte d'Éphésiens chapitre 5, verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Et tout ce que vous faites, il est dit dans Colossiens, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, je me soumets volontiers à l'autre parce que Christ me le demande. J'ai la crainte de Christ, j'aime mon Seigneur et j'ai un profond respect pour lui parce que c'est lui qui est mon chef, il est la tête, je suis membre du corps, je me soumets à ce qu'il me dit et il me demande de me soumettre et donc je le fais. Donc, lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, on cherche donc quelle est la direction de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. La parole de Dieu nous dit, voilà ce que Dieu attend dans la relation entre mari et femme. Voilà ce que Dieu attend lorsqu'on est enfant, voilà ce que Dieu attend lorsqu'on est employé. Que nous nous soumettions à l'ordre établi et ce qu'il a institué. Donc, ce passage, donc, nous l'avons lu. Je veux aussi souligner que pour Dieu, tous les hommes avec un grand H, donc que ce soit homme, femme, enfant, riche, pauvre, noir ou blanc, nous sommes tous égaux. Et que la Bible dit que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Donc pour Dieu, nous sommes tous mis sur le même pied d'égalité, et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes pécheurs. Jésus n'est pas venu seulement pour sauver une certaine catégorie de personnes, Jésus il est venu pour sauver tous les hommes. Voilà. Et une fois qu'on a mis sa foi en Jésus-Christ, le texte de Galates nous dit que nous formons un seul corps, le corps de Christ, et qu'il n'y a pas de distinction, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, Dieu ne fait pas de distinction, qu'on soit homme ou femme, pour lui nous formons un. L'un n'est pas supérieur à l'autre. Mais pour comprendre ce que le Seigneur nous enseigne dans ces passages, il faut faire la distinction entre la personne et la fonction qu'elle occupe. Il faut faire cette distinction-là. En tant que personne, nous avons la même valeur, la même dignité aux yeux de Dieu, ayant tous été créés à l'image de Dieu, mais tous nous avons des fonctions différentes avec une certaine autorité liée à cette fonction instituée par Dieu. Et cette autorité doit être reconnue et respectée. Donc il faut bien faire cette distinction-là entre la personne et la fonction qu'elle occupe. Et ce texte d'Éphésiens nous rappelle aussi que, qu'on soit homme ou femme, nous formons un, mais chacun a une fonction différente. Et pour encourager les uns et les autres dans son rôle, pour que bien faire comprendre à chacun quel est son rôle, l'apôtre Paul, il fait ce parallèle entre l'Église et le Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois, il le fait. Et si, en tant qu'Église, nous nous soumettons à Christ, il le dit, que l'épouse aussi, de la même manière, doit se soumettre à son mari. Alors, j'aimerais que nous considérions la relation qui existe entre Christ et son Église, et donc voir aussi donc la relation dans le couple qui soit à l'image de celle qui existe entre Christ et son Église. Ce texte nous dit déjà que Christ est le chef et le sauveur de l'Église au verset 23 et 24. L'Église, lorsqu'on parle de l'Église, on parle de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'Église, on ne dit pas c'est tout le monde. On parle de ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et qui sont membres du corps de Christ. Et donc, à chacun là aussi de se poser cette question, suis-je membre du corps de Christ? Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ pour être intégré dans son corps? Et le Seigneur les appelle les saints, les fidèles en Jésus-Christ. Et si Jésus est le chef suprême de l'Église, et s'il est important de se le rappeler, c'est parce qu'il est venu, il a donné sa vie, et Dieu l'a ressuscité, Dieu le Père l'a ressuscité des morts, et il l'a souverainement élevé, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est ce que l'apôtre Paul expliquait au chapitre 1. Dans Philippiens chapitre 2, il est dit qu'il existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même, devenant semblable aux hommes. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié, il a donné sa vie, et le Seigneur, le Père lui a donné donc ce titre de chef de l'Église, et à plusieurs reprises l'apôtre Paul le souligne. Et en tant que chef, c'est lui qui, il est dit au chapitre 4, en tant que chef de l'Église, c'est lui qui donne à l'Église ceux qu'il a choisis pour l'édification de l'Église, selon Éphésiens chapitre 4, quand il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Christ a mis à exécution son plan, son projet pour l'Église. Lorsqu'il a, il dit, il a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. L'Église est devenue le corps de Christ au moment de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les disciples qui étaient là. Et c'est là que l'Église a commencé. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en venant, il a aimé l'Église, ceux qui ont placé leur confiance en lui, alors que, il est dit, nous étions éloignés de Dieu, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses, nous vivions dans nos convoitises charnelles, nous étions des enfants de colère. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie alors que nous étions encore tout cela. Il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et il s'est livré pour nous alors que nous étions encore dans nos péchés. Il n'a pas attendu de voir que les hommes soient meilleurs, que les hommes soient parfaits, pour dire, ben d'accord, ben je vais donner ma vie pour eux, parce qu'ils le valent bien. Il a donné sa vie, sachant ce qu'il allait faire des chrétiens, de ceux qui allaient se tourner vers lui, et comment il allait les transformer. Donc il les a aimés. Il s'est livré lui-même pour nous. Il est dit qu'il sanctifie son Église au verset 26 en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Dans Jean chapitre 17, et c'est ça, il prie le Seigneur, il prie le Père, il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et il est dit je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il s'est donné, il s'est livré pour l'Église, il est remonté auprès du Père, mais il continue son œuvre de sanctification dans son peuple, pour que, il est dit au verset 26, pour nous faire paraître, il veut nous sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, le Seigneur, il continue son œuvre à travers l'enseignement qui est donné, la prédication de sa parole. Il continue à purifier son Église et il veut que cette Église paraisse devant lui sainte, irréprochable, n'ayant ni ride, sans tache, ni rien de semblable. Et donc, cette œuvre de sanctification, le Seigneur continue à le faire. Et sa volonté, donc, c'est qu'un jour, son Église soit avec lui. C'est là le projet final. Et que pour l'éternité, nous soyons avec lui. Et pour cela, nous devons paraître devant lui, glorieuse, sainte et irréprochable. Et au moment des noces de l'agneau, dans Apocalypse chapitre 19, il dit « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Son épouse s'est préparée. Et donc, le Seigneur, le chef de l'Église, il a non seulement il a aimé l'Église dans le passé en donnant sa vie pour elle, il a aimé l'Église et il aime l'Église au présent, il aime l'Église en continuant à la purifier et en la lavant par l'eau de la parole pour que cette Église et se prépare pour cette rencontre avec son Seigneur et pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit glorieuse et pour le jour où nous serons avec lui pour l'éternité et il va nous aimer encore pour l'éternité alors que nous serons l'Église sera glorieuse, sainte et irréprochable. Après, l'apôtre Paul dit au verset 28 et 30 que le Seigneur, donc, en attendant, il continue à nourrir et à prendre soin de son Église. Et lorsqu'il était sur la terre, c'est ce qu'il a fait aussi, il voyait cette foule qui était là comme des brebis sans berger, et il va enseigner cette foule, il va leur annoncer la parole, annoncer la bonne nouvelle, il va guérir les malades, il va prendre soin de chacun, il va multiplier les pains, etc. Il va subvenir aux besoins même matériels de chacun. Le Seigneur, il est celui qui nourrit et jusqu'à maintenant, il le fait. Donc voilà ce que l'apôtre Paul nous dit concernant Jésus-Christ, le chef de l'Église, et l'Église, en tant qu'épouse, doit se soumettre et se soumet à son chef. Et il y a tout ce travail que le Seigneur fait pour le bien de son épouse. Alors, il dit au couple, regardez quelle est cette relation entre l'Église et son Seigneur et son chef. Alors, calquez votre vie, votre relation avec votre mari, ou mari, calquez votre relation avec votre épouse à l'image de ce que le Seigneur nous montre. Alors, je vais le prendre dans l'ordre. Il s'adresse aux femmes et il dit à la femme que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Si nous ne remettons pas en cause la question de la soumission de l'Église vis-à-vis de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas non plus remettre en question la soumission de l'épouse vis-à-vis de son mari, parce que le texte nous dit Jésus-Christ a donné sa vie pour l'Église et l'Église se soumet, je dirais, volontiers à son chef, parce que en tant qu'Église, nous savons que Jésus-Christ nous a aimés. Jésus-Christ a livré sa vie pour nous. Jésus-Christ, c'est lui qui nous nourrit. Jésus-Christ, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et donc, oui, c'est volontairement que nous nous soumettons à lui. Et de même, la femme doit se soumettre à son mari, déjà parce que c'est Dieu qui le demande, tout simplement. Si Dieu dit, oui, que le mari est le chef de la femme, ça veut dire qu'il est, c'est lui qui a le rôle de leader, c'est lui qui est celui qui doit donner la direction. La femme doit se soumettre à son mari parce que le Seigneur le demande. Mais la femme se soumet aussi à son mari parce que elle voit, en tout cas, elle doit voir comment son mari l'aime, comme le Christ aime son Église. On peut lire ce passage de 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. En lisant ce passage, je voyais que l'apôtre Pierre, quand on voit le nombre de versets, il insiste, il parle beaucoup plus à la femme et plusieurs choses, et puis il y a quelques versets pour le mari. Et si vous voyez ce texte d'Éphésiens 5, c'est un peu l'inverse. Il y a quelques versets concernant la femme, la soumission de la femme, et beaucoup plus de versets concernant l'amour que le mari doit avoir pour son épouse. Donc, oui, la femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur, parce que refuser de se soumettre à son mari, c'est refuser de se soumettre à Christ. Ève, lorsque dans Genèse chapitre 3, elle n'a pas Elle ne s'est pas soumise à son mari lorsqu'elle a pris les devants pour aller et puis écouter ce que Satan lui disait. Et à cause de cela, elle a entraîné son mari dans le péché et ainsi toute l'humanité. Et donc le Seigneur lui dit, eh bien, à cause de cela, tes désirs se porteront vers son mari et qui dominerait sur elle. Mais nous avons beaucoup d'exemples de femmes qui se soumettent. L'apôtre Pierre a donné l'exemple de Sarah, mais nous avons l'exemple de Ruth dans la Bible, qui est une femme extraordinaire. Et à la fin, sa belle-mère, on dit à sa belle-mère qu'elle vaut plus que sept fils. Pour dire qu'elle était vraiment extraordinaire, mais cette femme, elle se soumettait à son mari. Et elle se soumettait déjà à sa belle-mère, Naomi, qui lui a dit, voilà, bon, tu es une Moabite, mais en Israël, voilà comment les choses se passent. Alors, elle lui donne ses instructions et Ruth va obéir, va se soumettre à sa belle-mère. Et lorsqu'elle va aller auprès de Boaz, elle va se soumettre et Boaz va voir toutes les qualités de cette femme et va la vouloir pour épouse. L'autre chose, c'est que le texte, donc, je pense que l'apôtre Paul met beaucoup et par rapport au nombre de versets, souligne vraiment quelle est l'importance pour le mari d'aimer sa femme. Et que si le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il n'y aura pas de difficulté à ce que l'épouse se soumette à son mari. Et en tant que mari, nous devons aimer notre épouse comme Christ a aimé l'Église, déjà en assumant notre rôle de chef, de la tête, en assumant notre rôle de chef de foyer. Adam n'a pas assumé son rôle de chef lorsqu'il a, en désobéissant à Dieu et en écoutant sa femme qui s'est laissée tenter par le diable. C'est à lui que Dieu avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'ils ont péché, c'est à lui que Dieu s'est adressé pour lui dire, mais Adam, qu'est-ce que tu as fait? Ne t'ai-je pas dit de ne pas, etc. C'est les reproches que Dieu fait, c'est à Adam, il ne va pas voir Ève. Parce que c'était à Adam qu'il avait confié cette responsabilité. Josué, lui, il a assumé ce rôle de chef, non seulement le chef du peuple, mais le chef de sa famille, lorsqu'il dit à son peuple, servez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était sa décision de faire que sa maison soit à se soumettre à Dieu et serve le Seigneur. Nous aimons notre épouse lorsque nous assumons notre rôle. Et malheureusement, de plus en plus, les hommes n'assument pas le rôle de chef. Les hommes n'assument pas le rôle de celui qui doit prendre les initiatives, de celui qui doit prendre, qui doit être celui qui va accompagner leur épouse et leurs enfants. Jésus, il s'est sacrifié pour l'Église. Et lorsqu'on aime sa femme, on doit être prêt aussi à se sacrifier pour elle. Jacob, il dit que Jacob, il a travaillé 14 ans pour son oncle Laban parce qu'il aimait Rachel. Et ce qui est beau dans ce texte, il dit que ces années, ça a été, il a dû travailler, donc il devait travailler 7 ans et après on lui a dit, voilà, il faut que tu travailles 7 ans en plus. Mais pour lui, ces 7 ans étaient pour lui comme quelques jours parce qu'il aimait Rachel. Il s'est sacrifié, il a travaillé dur parce qu'il aimait cette femme. Et lorsqu'on aime, on doit être prêt à se sacrifier. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. L'autre chose, c'est qu'en tant que mari, nous aimons notre femme lorsque nous la sanctifions. Dans le sens que, comme Jésus-Christ qui sanctifie son Église, qui... c'est qu'il la met à part, mais qui la nourrit, qui prend soin d'elle, qui veille à son épanouissement spirituel, son épanouissement en tant que femme. Lorsque on aime son épouse, on prend soin d'elle et on veut qu'elle soit, comme il est dit pour l'Église, qu'elle paraisse sans rides ni taches, mais qu'elle soit glorieuse. Et c'est ce que le Seigneur fait pour son Église. Alors, nous disons que nous aimons notre femme, mais est-ce que nous prenons soin d'elle? Est-ce que nous faisons tout pour qu'elle, comme on l'a trouvé, Jésus-Christ qui l'a aimé son Église, alors que ceux qui allaient composer cette Église étaient des pécheurs, etc. Mais il s'est livré pour elle, sachant ce qu'il allait faire d'elle. Donc, au fait, lorsqu'on se marie, on ne doit pas s'attendre à avoir une épouse parfaite, mais cette personne qu'on a aimée, qu'on aime, on doit comprendre qu'on doit prendre soin d'elle pour qu'elle soit meilleure, pour qu'elle soit plus, pour qu'elle soit une belle plante et pour qu'elle soit glorieuse. Et c'est là tout notre rôle en tant que mari, prendre soin de nos épouses, les aimer, être prêt à nous livrer pour elles. Et malheureusement, nous fautons vraiment dans cela. Sanctifier son épouse, prendre soin d'elle pour qu'elle paraisse sans rides ni taches, mais qu'elle soit glorieuse, qu'elle soit, c'est extraordinaire ce qu'il dit, mais sainte et irréprochable. Voilà, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Prendre soin de son épouse. Donc, si nous aimons nos épouses comme le texte le dit, comme le Seigneur a aimé son Église, il n'y a pas besoin de, et il n'y a jamais besoin de dire à la femme que tu dois être soumise. Il n'est pas besoin de le dire, puisque ça sera naturel. Si on est amené à rappeler à notre épouse qu'elle doit être soumise, c'est que nous avons raté quelque chose. C'est que nous n'avons pas assumé notre rôle. Et qu'elle n'a pas vu en nous l'amour que le Seigneur a pour son Église. Et donc, le Seigneur, il a institué le mariage, quand il dit « C'est pourquoi l'homme qui tuera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » L'apôtre Paul recite ce texte de la Genèse pour revenir donc à l'institution du mariage, pour montrer qu'au départ, comment Dieu voulait que les choses soient, avant que le péché arrive. Et en tant qu'Église, en tant que chrétien, le Seigneur veut montrer aux hommes, voilà, moi je suis en train de recréer, de refaire ce que le péché a détruit. Et ces hommes et ces femmes que j'ai sauvés, que je veux transformer, je veux aussi qu'ils soient là comme un modèle pour montrer aux autres, voilà ce qu'est le mariage selon moi. Et donc, c'est une grosse responsabilité que nous avons, frères et sœurs, et pour les jeunes aussi qui veulent se marier, voir qu'est-ce que Dieu attend du mari ou qu'est-ce que Dieu attend de l'épouse. Et ce qui fait obstacle à cette vie en fait harmonieuse, cette vie heureuse que Dieu voudrait qu'il y ait entre l'homme et la femme, ce qui fait obstacle, c'est notre orgueil. L'orgueil de l'homme qui le pousse à abuser de son autorité et à rechercher donc son propre intérêt, mais aussi l'orgueil de la femme qui la pousse à refuser de s'humilier et à rechercher là aussi son propre intérêt. Donc conclusion, c'est notre orgueil, notre cœur, la dureté de notre cœur qui nous empêche de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. On peut terminer avec ce passage de 1 Pierre, chapitre 5. Mais là aussi, ce texte nous rappelle toute la nécessité et l'obligation même de se marier dans le Seigneur. Parce que si vous ne vous mariez pas dans le Seigneur, ça veut dire que si vous ne vous mariez pas avec une personne qui partage ces mêmes sentiments, qui partage ces mêmes vérités, alors il y aura toujours ce décalage. Et si vous ne vous mariez pas avec un chrétien ou une chrétienne, forcément, il y aura des problèmes. Et donc, on revient toujours à l'origine du problème qui est notre cœur, la dureté de notre cœur, l'orgueil qui nous caractérise. Et c'est ce qui fait que ça ne marche pas toujours. 1 Pierre chapitre 5, verset 5, il dit: « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, ce paragraphe que j'ai lu là, il commence par rappeler aux jeunes le fait d'être soumis aux anciens. Donc on est dans le sujet de fait de se soumettre à l'autorité qui est établie. Et il dit dans vos rapports mutuels, et tous il dit, donc revêtez-vous d'humilité. Et donc c'est ça qui peut faire obstacle à cette harmonie, cette vie heureuse qu'il peut y avoir, c'est le fait de ne pas nous revêtir d'humilité. Et il dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc alors, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Faites attention, le diable, il est là, il rôde comme un lion rugissant. Et ce qu'il veut, c'est détruire les couples, détruire les familles. Alors, est-ce que vous vous laissez sous la domination du diable ou est-ce que vous voulez donner gloire à Dieu? Alors, ne donnez pas d'occasion au diable. Résistez-lui, il est dit, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. En disant ça, sachant que il existe beaucoup de couples, il y a de grandes difficultés, mais l'apôtre Pierre, il dit que la femme, elle peut toucher son mari même sans parole. Et il y a des femmes qui, par la grâce de Dieu, ont tenu bon, et grâce à leur persévérance, grâce à leur foi, Dieu a pu toucher le cœur de leur mari. Et parfois on peut avoir, certains ont des maris inconvertis et c'est très difficile. Mais ces femmes, de foi, ont fait ce que Pierre a dit au chapitre 3. Et au chapitre 5, elles ont fait preuve d'humilité. Elles ne voulaient pas donner d'occasion au diable. Et Dieu a pu, dans sa grâce, sauver ses maris qui étaient inconvertis. Il a transformé les cœurs. Et ces femmes de foi peuvent vivre dans l'harmonie maintenant, parce que Dieu a été le vainqueur. Donc ne donnons pas d'occasion au diable, résistons-lui avec une foi ferme, sachant qu'il y a d'autres qui souffrent aussi comme nous, mais sachant surtout que Dieu est celui qui peut délivrer, et que Dieu, à travers même les souffrances que nous pouvons rencontrer dans la vie de couple, Dieu veut utiliser cela aussi pour nous perfectionner, pour nous affermir, pour nous fortifier et nous rendre inébranlables. Donc nous voulons le glorifier, nous voulons honorer notre Seigneur. Alors soumettons-nous à sa parole et soumettons-nous les uns aux autres. Amen.